Le procureur de Flynn County, William Samuels, marcha d'un pas décidé vers l'estrade installée dans la salle de conférence du palais de justice, un mince dossier à la main. Il se planta derrière une forêt de micros. Les projecteurs des équipes de télé s'allumèrent. Il palpa l'arrière de son crâne, pas dépit, et attendit que le silence se fasse parmi les journalistes. Ralph était assis au premier rang. Samuels le salua d'un bref hochement de tête avant de commencer.
« Bonjour, mesdames et messieurs. Je vais faire une brève déclaration concernant le meurtre de Frank Peterson, après quoi je répondrai à vos questions. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, il existe une vidéo qui montre Terence Maitland assistant à une conférence à Cap City, au moment même où Frank Peterson était enlevé, puis assassiné, ici, à Flint City. L'authenticité de cet enregistrement ne peut être mise en doute. Pas plus que les témoignages fournis par les collègues de M. Maitland qui l'accompagnaient à cette conférence et attestent de sa présence. Au cours de notre enquête, nous avons par ailleurs découvert les empreintes digitales de M. Maitland à l'hôtel où avait lieu cette conférence, et nous avons pu recueillir des témoignages supplémentaires confirmant que ces empreintes ont été laissées à une heure trop proche du meurtre de Frank Peterson pour que M. Maitland puisse être considéré comme suspect. »
Des murmures s'élevèrent parmi les journalistes. L'un d'eux demanda:
« Dans ce cas, comment expliquez-vous qu'on ait retrouvé les empreintes de Maitland sur le lieu du meurtre ?»
Samuels gratifia le journaliste de son froncement de sourcil le plus sévère.
« Gardez vos questions pour plus tard, je vous prie. J'allais justement y venir. Après de nouvelles analyses médico-légales, nous avons le sentiment que les empreintes retrouvées dans la camionnette ayant servi à enlever l'enfant et à Figgis Park ont été trafiquées. Il s'agit d'un cas rarissime, mais nullement impossible. » Diverses techniques permettant de manipuler des empreintes digitales se trouvent sur Internet, précieuses sources d'informations pour les criminels comme pour la police. Cela suggère que nous avons eu affaire à un meurtrier aussi habile que pervers et extrêmement dangereux. Par ailleurs, nous avons des raisons de penser qu'il avait une dent contre Terence Maitland, une hypothèse que nous souhaitons approfondir.
Samuels balaya l'assistance du regard, ravi de ne pas être obligé de se présenter à sa propre réélection. Après ce fiasco, n'importe quel avocat véreux ayant décroché son diplôme par correspondance l'aurait battu à coup sûr et haut la main.
Vous pouvez légitimement vous demander pourquoi nous avons continué à considérer M. Maitland comme suspect, compte tenu des éléments que je viens d'exposer. Il y avait deux raisons à cela. La première, la plus évidente, et que nous ne disposions pas de tous ces éléments le jour où M. Maitland a été arrêté, ni le jour où il aurait dû être présenté devant le juge.
Pourtant, on les avait déjà presque tous, n'est-ce pas, Bill ? Songea Ralph, vêtu de son plus beau costume et affichant son plus bel air impénétrable de représentant de la loi.
La seconde raison,
poursuivit le procureur,
c'était la présence sur la scène de crime de traces d'ADN qui semblait correspondre à celui de M. Maitland. Selon une idée largement répandue, les tests d'ADN ne se trompent jamais. Mais, comme le Conseil d'éthique de la génétique l'a souligné dans un article intitulé « Potentiel d'erreur dans les tests d'ADN en criminologie », c'est une idée erronée. Ainsi, quand les échantillons sont mélangés, par exemple, les résultats ne sont pas fiables. Or, les échantillons prélevés à Figgis Park étaient effectivement mélangés, puisqu'ils contenaient à la fois les ADN du criminel et de la victime.
Il attendit que les journalistes aient fini de prendre des notes avant de poursuivre.
Ajoutez à cela le fait que ces mêmes échantillons ont été exposés à la lumière ultraviolette au cours d'une autre procédure d'analyse, sans lien avec cette affaire. Malheureusement, ils ont été si sérieusement dégradés que, du point de vue de mes services, il n'aurait pas été recevable devant un tribunal. Pour dire les choses plus simplement, ces échantillons n'ont aucune valeur. »
Samuels s'interrompit, le temps de consulter son dossier. Pure mise en scène, car toutes les feuilles à l'intérieur étaient blanches.
« J'aimerais évoquer brièvement les événements survenus à Marysville, au Texas, suite au meurtre de Terence Maitland. Selon les enquêteurs, l'inspecteur Jack Hoskins de la police de Flint City avait formé une association malsaine et criminelle avec l'assassin de Frank Peterson. Nous pensons que Hoskins aidait cet individu à se cacher et qu'il projetait peut-être d'accomplir un autre crime aussi effroyable. Grâce aux efforts héroïques de l'inspecteur Ralph Anderson et des personnes qui l'accompagnaient, ces projets ont été déjoués.
Il leva les yeux vers son auditoire, l'air grave.
Nous déplorons les décès de Howard Gold et d'Alec Pelley, morts à Marysville. Mais, comme leur famille, nous puisons du réconfort dans la conviction que quelque part, à cet instant même, un enfant va échapper au triste sort qu'a connu Frank Peterson.
Joli, pensa Ralph. Juste ce qu'il faut de pathos sans sombrer dans le sentimentalisme.
Je suis sûr que vous avez de nombreuses questions concernant les événements survenus à Marysville, mais il ne m'appartient pas d'y répondre. L'enquête, menée conjointement par la police du Texas et la police de Flint City, est en cours. Le lieutenant Yunel Sablo, de la police d'État, sert d'agent de liaison entre ces deux excellents services, et je suis sûr qu'il aura des informations à vous transmettre le moment venu.
Il est doué, se dit Ralph, réellement admiratif. Il fait mouche à tous les coups. Samuels ferma son dossier, baissa les yeux, puis les leva de nouveau.
Mesdames et messieurs, je ne briguerai pas un nouveau mandat. Je peux donc me permettre, chose rare, d'être d'une totale honnêteté avec vous.
Encore plus fort, se dit Ralph.
Si le bureau du procureur avait disposé de davantage de temps pour analyser les preuves, il aurait sans doute annulé les charges pesant sur M. Maitland. Si nous avions persévéré, malgré tout, jusqu'au procès, je suis certain qu'il aurait été jugé innocent. De fait, et je n'ai pas besoin d'insister sur ce point, il était innocent au moment de sa mort, d'après la jurisprudence. Néanmoins, le nuage du soupçon plane toujours sur lui et sur sa famille. Je suis ici aujourd'hui pour dissiper ce nuage. L'avis du bureau du procureur, et le mien, à titre personnel, est que Terry Maitland n'était aucunement mêlé, de près ou de loin, à la mort de Frank Peterson. Voilà pourquoi je vous annonce la réouverture de l'enquête. Et si celle-ci se concentre actuellement sur les événements survenus au Texas, elle se poursuit également à Flint City et dans tout le comté. Maintenant, je serai ravi de répondre à vos questions, s'il y en a.
Il y en avait. Beaucoup. 5. Plus tard dans la journée, Ralph rendit visite à Samuels sur son lieu de travail. Le futur ex-procureur avait une bouteille de Bush Mills sur son bureau. Il leur en servit une dose à chacun et leva son verre.
À présent, le tohu-bohu a cessé. À présent, la bataille est perdue et gagnée. Surtout perdue en ce qui me concerne, mais on s'en fout. Buvons au tohu-bohu.
Ils trinquèrent. Vous avez bien géré les questions, dit Ralph, surtout compte tenu de tout le baratin que vous avez balancé. Samuel haussa les épaules.
Le baratin, c'est la spécialité de tout bon avocat. Terry n'est pas totalement réhabilité dans cette ville, et il ne le sera jamais complètement, Marcy en a conscience. Mais les gens commencent à changer d'avis. À l'image de son ami Jimmy Mattingly, Marcy m'a appelé pour m'annoncer qu'elle était venue s'excuser. Elles ont beaucoup pleuré toutes les deux. C'est essentiellement la vidéo de Terry à Cap City qui a fait pencher la balance. Mais mes propos sur les empreintes et l'ADN porteront leurs fruits également. Marcy va essayer de rester ici, et je pense qu'elle réussira.
Concernant l'ADN, dit Ralph, c'est Ed Bogan, du service de sérologie de l'hôpital, qui a analysé ces échantillons. Maintenant que sa réputation est mise en cause, il doit ruer dans les brancards. Samuel sourit.
Oui, sûrement. Sauf que la vérité est encore moins acceptable. Encore un cas d'empreinte de pas qui s'arrête brusquement, pourrait-on dire. Il n'y a pas eu d'exposition à la lumière ultraviolette, mais des taches blanches d'origine inconnue ont commencé à se développer sur les échantillons. Et ceux-ci sont totalement dégradés maintenant. Bogan a contacté les services de la police scientifique de l'Ohio, et devinez quoi? Idem pour les échantillons de East Holmes. Une série de photos les montre presque en train de se désintégrer. Un avocat de la défense se régalerait avec ça, non?
Et les témoins? Bill Samuels rit et se servit un autre verre de Bush Mills. Il tendit la bouteille à Ralph, qui secoua la tête. Il allait conduire au retour.
C'était le plus facile. Ils ont tous décidé qu'ils s'étaient trompés, à deux exceptions près. Arlene Stanhope et June Morris.
elles s'en tiennent à leur déclaration. » Ralph ne s'en étonna pas. Stanhope était la vieille dame qui avait vu l'inconnu aborder Frank Peterson sur le parking de l'épicerie fine et partir avec lui. June Morris était la fillette qu'il avait vue à Figgis Park, la chemise tachée de sang. Les personnes âgées et les enfants étaient toujours ceux qui voyaient le plus clairement les choses. « Et maintenant ?» demanda-t-il.
« Maintenant, on finit notre verre et on part chacun de son côté, » répondit Samuels. « J'ai juste une dernière question. »
« Allez-y. »
« Était-il unique, ou y en a-t-il d'autres ?»
L'esprit de Ralph le ramena dans la grotte lors de l'ultime confrontation. Il revit l'expression avide dans les yeux de la créature quand il avait demandé
« Auriez-vous déjà rencontré quelqu'un comme moi ?»«
Je ne pense pas, » dit-il, « mais nous n'en serons jamais absolument certains. Tout peut exister. Ça, je le sais. »
« Nom de Dieu, j'espère que non !»
Ralph ne dit rien. Il entendait la voix de Holly.
« L'univers est infini. »
21 septembre 6 Ralph emporta sa tasse de café dans la salle de bain pour se raser. Durant sa période de congé administratif, il avait négligé cette tâche quotidienne, mais il avait été réintégré 15 jours plus tôt. Janet préparait le petit déjeuner, en bas, dans la cuisine. Il sentait l'odeur du bacon et entendait le vacarme des trompettes du générique de l'émission Today, qui débuterait par son lot de mauvaises nouvelles quotidiennes, avant de passer à la célébrité de la semaine et à une multitude de publicités pour des médicaments. Il posa sa tasse sur la tablette et se figea, en voyant un verre rouge sortir de sous l'ongle de son pouce en se tortillant. Il se regarda dans le miroir et vit son visage prendre les traits de celui de Claude Bolton. Il ouvrit la bouche pour hurler. Un flot d'asticots et de verre rouge se déversa alors de ses lèvres et dégringola sur sa chemise. 7. Il se réveilla assis dans son lit, le cœur cognant dans sa gorge et sa poitrine, les tempes battantes, les mains plaquées sur la bouche, comme pour réprimer un hurlement, ou bien pire. Janet dormait à côté de lui. Il n'avait donc pas crié. C'était déjà ça. Aucun n'est entré en moi ce jour-là. Aucun ne m'a touché même. Tu le sais.
Oui, il le savait. Il était passé par là, après tout. Et il avait subi un check-up complet et trop longtemps repoussé, avant de reprendre le travail. À l'exception d'un léger surpoids et d'un taux de cholestérol un peu trop élevé, le docteur Elway l'avait trouvé en bonne santé. Il jeta un coup d'œil au réveil, 4h moins le quart. Il se rallongea. En regardant le plafond, l'aube était encore loin. Il avait le temps de cogiter. 8. Ralph et Janet étaient des lève-tôt. Derek dormirait jusqu'à ce qu'il le réveille à 7h, dernière limite pour qu'il ne loupe pas le quart de ramassage scolaire. Ralph était assis à la table de la cuisine, en pyjama, pendant que sa femme allumait la cafetière et sortait les boîtes de céréales pour que Derek ait le choix quand il descendrait. Elle lui demanda s'il avait bien dormi.
« Oui, » répondit Ralph. Elle lui demanda comment se déroulait le recrutement pour remplacer Jack Hoskins. Il lui répondit qu'il était terminé. Sur ses recommandations et celles de Betsy Riggins, le chef Geller avait décidé de choisir l'agent Troy Ramage pour rejoindre le trio d'inspecteurs de la police de Flint City.
« Ce n'est pas l'ampoule la plus brillante du lustre, mais il est travailleur et il a l'esprit d'équipe. Je pense qu'il fera l'affaire. »
« Tant mieux. »
Elle remplit sa tasse et lui caressa la joue.
« Vous piquez, monsieur. Vous avez besoin de vous raser. »
Ralph prit sa tasse, monta, ferma la porte de la chambre derrière lui et débrancha son portable du chargeur. Le numéro qu'il cherchait figurait dans ses contacts. Et bien qu'il soit encore tôt, l'ouverture en fanfare de Today ne retentirait que dans une demi-heure, il savait qu'elle serait déjà levée. Très souvent, elle répondait avant même la fin de la première sonnerie, comme aujourd'hui.
« Bonjour, Ralph. »
Bonjour, Holly.
Vous avez bien dormi?
Pas très bien, non. J'ai encore fait ce rêve avec les verres. Et vous?
Cette nuit, ça allait. J'ai regardé un film sur mon ordinateur et j'ai pioncé aussitôt après. Quand Harry rencontre Sally, ça me fait toujours rire.
Tant mieux. C'est bien. Sur quoi vous enquêtez?
Toujours pareil, grosso modo.
Son ton se figuait.
mais j'ai retrouvé une fugueuse de Tampa dans une auberge de jeunesse. Sa mère la cherchait depuis 6 mois. Je l'ai convaincue de rentrer au bercail. Elle a promis d'essayer encore une fois, même si elle déteste le petit ami de sa mère.
Vous lui avez donné de l'argent pour son billet de car, je parie. Vous savez qu'elle est certainement en train de le fumer dans une piole pourrie quelque part, hein?
Pas toujours, Ralph. Il faut...
Oui, je sais. Il faut avoir la foi.
Oui.
Le silence s'installa un instant dans la liaison entre les deux endroits qu'ils occupaient sur Terre.
Ralph.
Il attendit.
C'est... ces choses qui sont sorties de lui. Elles ne nous ont pas touchés, ni l'un ni l'autre. Vous le savez, hein?
Oui. Je crois que mes cauchemars sont surtout liés à un melon que j'ai ouvert quand j'étais gosse et à ce qu'il y avait à l'intérieur. Je vous en ai parlé, je crois.
Oui.
Il devina le sourire dans la voix de Holly et sourit en retour, comme si elle se trouvait à côté de lui. Oui, évidemment que je vous en ai parlé. Souvent même, je parie. Certains jours, je me dis que je perds la boule.
Pas du tout. La prochaine fois, c'est moi qui vous appellerai pour vous raconter que j'ai rêvé qu'il était dans mon armoire avec le visage de Brady Hartsfield, et vous me direz que vous avez bien dormi.
Il savait qu'elle disait vrai, car cela s'était déjà produit.
Ce que vous ressentez, ce que je ressens, c'est normal. La réalité est une fine couche de glace, mais la plupart des gens patinent dessus toute leur vie sans passer à travers, sauf à la toute fin. Nous, on est passé à travers, mais on s'est entraidés, et on continue à le faire.
C'est surtout vous qui m'aidez. Pense à Ralph. Vous avez peut-être un problème, mais vous êtes plus doué que moi pour tout ça. Beaucoup plus.
Vous allez bien?
Demanda-t-elle.
Sincèrement.
Oui, sincèrement. Et bientôt, vous pourrez en dire autant.
Message reçu. Appelez-moi si vous entendez la glace craquer sous vos pieds.
Bien sûr. Et vous en ferez autant. C'est comme ça qu'on avance. D'en bas, Janet lança
« Petit déjeuner dans 10 minutes, mon chéri !»«
Il faut que je raccroche, » dit Ralph. « Merci d'être là. » »«
De rien. Prenez soin de vous. Soyez prudent. Attendez que les rêves cessent. » »«
Promis. » »«
Au revoir, Ralph. » »«
Au revoir. » Après un moment de silence, il ajouta « Je vous aime, Holly. » Mais il avait déjà coupé la communication, comme chaque fois. Car il savait que s'il le lui disait pour de bon, elle serait gênée et ne saurait pas quoi répondre. Il se rendit dans la salle de bain pour se raser. Il approchait de la 50aine et les premiers poils blancs commençaient à apparaître dans la barbe naissante qu'il enduisit de mousse. Mais c'était son visage, celui que sa femme et son fils connaissaient et aimaient. Ce serait son visage pour toujours. Et tant mieux.